Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invitée est maître Delphine Bozel, qui est avocate au barreau de Paris depuis 2000, l'année 2000, l'an 2000, et qui pratique le droit pénal et plus particulièrement le droit pénitentiaire. Vous avez été nombreux à me demander d'interviewer un avocat ou une avocate qui pratiquerait cette matière et vos désirs sont des ordres. Nous sommes donc rentrés dans le détail avec Delphine sur en quoi consiste le droit pénitentiaire, en quoi consiste son intervention très concrètement, en pratique, comment est-ce qu'elle travaille et aussi comment sont venus ses clients, comment est-ce qu'elle a développé son activité. Je remercie très grandement maître Salomé Cohen, maître Tiffaine Marie, maître Pierre-François Rousseau ainsi que maître Camille Escuyer pour cette recommandation. Je crois que je n'ai jamais eu de recommandation aussi unanime. Autant de recommandations pour une seule et même personne. Et après avoir interviewé Delphine, je dois reconnaître que je n'en suis pas surprise. Pour partager vos réflexions sur le podcast, poser des questions, partager des trucs et astuces, aussi je vous invite à rejoindre le groupe WhatsApp de Fleur d'Avocat en envoyant un email à l'adresse whatsapp@fleurdavocat.fr. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour la 100e interview d'un avocat ou d'une avocate épanouie. Bonjour Delphine Bozel.
Bonjour.
Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat.
Je vous en prie, c'est un plaisir.
Alors Delphine, racontez-moi quand et ou plutôt pourquoi et comment vous êtes devenue avocate.
J'ai prêté serment en janvier 2000, donc oui. Il y a maintenant 21 ans. Et je ne peux pas dire que le métier d'avocat était une vocation. Alors ça m'avait traversé l'esprit à plusieurs reprises depuis toute jeune. Mais je faisais des allers-retours avec d'autres professions et c'est parce que j'ai réussi le concours d'entrée à l'école du barreau.
Alors attendez, vous allez vite. Vous dites que vous avez fait des allers-retours avec d'autres professions. Comment est-ce que ça s'est dessiné tout ça?
Il y avait plein de professions qui m'intéressaient. J'avais à un moment réfléchi. J'aurais aimé être comédienne. J'aurais aimé être archéologue, mais voilà, des allers-retours. Après, j'ai fait mon stage de 3 ans.
Je vais vraiment vous cuisiner.
Non.
Donc, vous étiez en fac de droit et puis vous êtes allé faire une fac d'histoire?
Pas du tout, ça, je vous parle de ça de bien avant.
Bien avant.
Après, j'ai effectivement choisi le droit.
Vous avez choisi le droit et vous vous êtes investi dans le droit sans savoir.
Et sans savoir vraiment ce que j'avais envie de faire. Ouais. Donc, passer des concours de l'administration, passer l'école du barreau et j'ai obtenu l'examen d'entrée à l'école de Versailles.
Ok. Voilà. Et une fois dans le droit, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez fait des stages? Est-ce que vous avez eu des coups de cœur pour des matières?
Alors, il faut quand même que je dise que mon stage de 3e, je l'avais fait chez un avocat.
Oui.
Donc, quand même, ça me travaillait depuis longtemps, mais sans réelle passion. Et ensuite, pendant mes années d'études, j'ai effectivement fait des stages dans des cabinets généralistes. Je suis devenue génépiste en licence. Et c'est véritablement là que s'est posée la question de l'avocature, si j'ai le droit d'utiliser ce terme, et du pénal.
Oui. Comment est-ce que vous avez découvert le Génépi? Comment cette opportunité s'est présentée?
Grâce à une de mes amies de faculté qui m'a dit « Regarde, il y a une annonce, ils recherchent, est-ce que ça t'intéresse? On va voir. » Et puis ça nous a effectivement interpellés. Donc voilà, c'était le hasard qui m'a fait découvrir cette association. J'y suis restée 2 années.
Et vous avez fait quoi pour le Génépi?
Eh bien, j'étais avec une autre intervenante dans un atelier théâtre à la Maison d'Arrêt de Fresnes. Mmh. Voilà, elle était actrice, elle de profession, mais étudiante également, puisque c'était une des conditions pour être au Génépi. Et nous avons animé pendant 2 ans un atelier théâtre pour faire une représentation à la Maison d'Arrêt de Fresnes. C'était en 1997.
Oui. Et qu'est-ce que ça vous a apporté?
Eh bien, à plusieurs reprises, lorsque les personnes avec lesquelles nous travaillons me posaient la question de mes études et de savoir ce que je faisais, que je disais que j'étais en droit, que je ne savais pas encore, mais que je me posais la question de devenir avocate, On me disait, on m'a répété, et ça m'a vraiment travaillé, mais ne deviens pas avocat. De toute façon, les avocats, une fois qu'on est condamné, ils ne s'occupent plus de nous. Ils n'en ont rien à faire. Et donc, je crois que c'est ça qui m'a amené par la suite, justement, à m'intéresser au droit de la prison ou à l'absence de droit en prison, et qui a orienté ma carrière.
Et quand vous dites que ce sont ces paroles de sentiment d'être délaissé qui ont orienté, qui ont fait que vous vous êtes intéressé à l'absence de droit en prison, est-ce que vous évoquez déjà dans la suite de vos études ou est-ce que c'est venu un petit peu plus tard? Comment est-ce que ça s'est manifesté, votre intérêt justement pour cette absence de droit? Qu'est-ce que vous en avez fait?
Ça m'a attirée. Alors, c'est là que j'ai commencé aussi à rencontrer l'Observatoire international des prisons section française, puisque ça m'a interpellée de comprendre vraiment ce qu'il se passait en détention. Et lorsque j'ai préparé l'école du barreau, mon mémoire de fin de d'école pour passer le CAPA était sur la question de la présence de l'avocat pour accompagner les personnes après leur condamnation ou même lorsqu'elles étaient prévenues, mais sur le fait qu'elles aient des droits à revendiquer, des droits à faire respecter. Donc ça a orienté en fait mon CAPA. Par la suite, je suis devenue une collaboratrice d'un avocat pénaliste. Et nous étions dans les années 2000, enfin nous étions en 2000, pardon, au moment où la procédure pénale a également s'est réformée pour permettre la présence de l'avocat dans les débats contradictoires devant le juge de l'application des peines, ce qui n'existait pas auparavant, pour permettre l'avocat en commission de discipline. Donc il y a eu une sorte d'alignement des planètes sur l'année 2000 avec les réformes pénales et pénitentiaires, mon entrée dans la profession. Et finalement, c'était, je vais pas dire que c'était simple, mais presque en fait.
Ouais. Vous dites que vous avez commencé votre collaboration dans un cabinet avec un pénaliste. Vos stages de l'EFB, enfin de l'école des avocats, pardon, vous les avez faits chez des pénalistes aussi?
Alors j'avais fait un double stage chez un des avocats qui m'avait pris en stage quand j'étais plus jeune et avec lequel j'ai fait pendant un an et demi de la collaboration à mi-temps. Ouais. Et le stage chez l'avocat pénaliste, c'était aussi un de mes stages de l'école d'avocat qui m'a proposé un autre mi-temps. Ouais. Donc en fait, pendant un an et demi, j'ai fait deux mi-temps dans deux cabinets séparés.
Comme collaboratrice. Avec du coup un aspect pénal et un aspect moins pénal?
Un aspect moins pénal, droit du travail et droit de la famille.
Et ces avocats, donc le premier, vous l'aviez, c'était votre stage de troisième, le premier?
Non,
rien à voir. Encore un autre.
Mais des stages de licence et maîtrise.
Ouais. Et vous les aviez rencontrés comment? C'est trouvé comment ces stages?
Alors le stage licence maîtrise, c'est du piston, ouais. Parce qu'il connaissait mon père. Et le deuxième, c'était parce que je voulais faire un stage de pénal pendant ma formation. J'ai écrit à tous les pénalistes de Paris, il n'y en a qu'un qui m'a répondu. Et donc, j'étais la première qu'il prenait en stage, la première collaboratrice qu'il avait. Et on s'est suivi pendant 15 ans. Il est parti à la retraite il y a 2 ans. Ouais. Mais voilà, on a gardé des liens forts.
Et vous dites que du coup, quand vous terminez l'école, vous enchaînez ces deux, enfin vous articulez ces deux collaborations à mi-temps. Est-ce que c'était conventionnel? Est-ce que c'était comment est-ce que vous appréhendiez en fait cette situation professionnelle d'être collaboratrice de deux cabinets? Comment en pratique est-ce que ça s'est organisé? Parce que déjà qu'aujourd'hui, enfin moi je reçois en tout cas pas mal de messages d'avocats qui me disent mais est-ce que ne serait-ce que un mi-temps c'est crédible dans le sens du respect de la notion de mi-temps. Donc voilà, comment est-ce que vous avez articulé ça et aussi quelle était votre perception de cette situation professionnelle avec le cumul de demi-temps?
Avec le recul, je dirais que c'était pas très confortable parce que en plus j'étais plus attirée par le pénal et que donc j'avais l'impression d'avoir favorisé quand même mon patron pénaliste au détriment du premier. Après, il y avait des jours, on arrivait. Alors ils ne se connaissaient pas, ils ne se sont jamais parlé. En fait, c'est moi qui faisais mon agenda en fonction des audiences des uns et des autres. Ça a duré 18 mois et au bout de 18 mois, j'ai lâché la collaboration généraliste pour prendre un trois quarts de temps chez le pénaliste. Mmh. Ce qui était finalement beaucoup plus confortable. Et après, je pense que ce qui est vraiment difficile, c'est d'avoir demi-temps dans deux endroits différents pour deux patrons qui ne se connaissent pas. Je dirais qu'après demi-temps avec des patrons qui se connaissent bien et si vous êtes au sein du même cabinet, c'est tout à fait faisable. Mmh. Et puis sur la gestion du temps, lorsqu'on n'a qu'un mi-temps, je ne peux pas en parler en tant que collaboratrice. Mais j'essaye de faire au mieux avec ma collaboratrice qui est à mi-temps pour moi, pour faire en sorte qu'il y ait des jours vraiment dédiés à son travail personnel et des jours dédiés au cabinet. Et que s'il doit y avoir un moment tant pour elle que pour moi, des urgences qui nous tombent dessus, et bien qu'on s'arrange pour... C'est pas simple, mi-temps. C'est vrai que c'est un métier qui demande beaucoup de temps, mais... À la limite, un temps plein, c'est pas simple non plus, puisque c'est des activités qui nous peuvent, on peut se laisser tellement envahir que c'est après de la discipline personnelle, la discipline du patron, alors si c'est pas forcément le terme, mais bon, et la discipline du collaborateur.
Ouais. Et pour en revenir à vous, votre parcours, donc au bout de 18 mois, vous abandonnez le droit généraliste famille et vous vous concentrez sur le pénal et vous avez dit que votre entrée dans la profession c'était donc faite au moment de parution de textes importants en matière justement de droit pénitentiaire. Vous avez parlé d'un alignement des planètes. Alors comment est-ce que ça s'est en pratique configuré pour vous ? Qu'est-ce que vous en avez fait de ces textes ?
Alors l'année 2000, c'est la loi présomption d'innocence donc d'Elisabeth Guigou en juin 2000 qui va donc créer les juges de, enfin pas créer les juges de l'application des peines, mais les débats contradictoires avec les avocats et les personnes condamnées. Et une loi d'avril 2000 de relations entre les administrations et les usagers de l'administration qui va permettre l'entrée de l'avocat dans les commissions de discipline en prison. Et moi, je suis jeune collaboratrice depuis janvier 2000. Ces textes sont d'avril et de juin. Et à partir de là, dans mon cabinet de pénal, je vais dire à mon patron qu'il faut que nous soyons présents en commission de discipline, que nous allions faire des débats contradictoires devant le juge de l'application des peines. Et au fur et à mesure, les choses se mettent en place. Et sur les dossiers de droit pénitentiaire, j'en avais une charge quasi exclusive. Alors, on n'en a pas eu des tonnes, hein, mais on a fait quelques recours on en a gagné certains, perdu d'autres. Mais c'est comme cela que, en plus donc de l'activité du pénaliste qui fait les gardes à vue et la défense devant les juridictions, on a orienté aussi sur l'application des peines et le droit pénitentiaire.
Et comment, parce que vous dites que jusqu'à maintenant, enfin, du coup, c'était un droit nouveau, une présence nouvelle de l'avocat. Comment est-ce que ça s'est fait avec les clients? C'est-à-dire, est-ce que c'est les clients que vous avez accompagnés en pénal, que vous avez poursuivi l'accompagnement de manière assez logique ensuite devant le juge de l'application des peines et en commission disciplinaire? Est-ce que ça a été aussi le fait de... développer une clientèle déjà en prison et de commencer à l'accompagner dans ses problématiques. Comment est-ce que ça s'est articulé, j'ai envie de dire, entre l'offre et la demande?
Là, vous parlez d'aujourd'hui ou...
Déjà à l'époque, quand c'était tout nouveau, en fait.
Alors, je peux pas savoir, j'ai pas de, ça fait 20 ans et j'arrive pas à me souvenir. En plus, j'avais pas une gestion de la clientèle vraiment, puisque c'était la clientèle de mon patron. Je pense qu'on a surtout accompagné des personnes qui étaient déjà des clientes du cabinet et il n'y a pas eu d'arrivée en fait de nouveaux clients, ou alors je n'en ai vraiment pas le souvenir.
Ouais.
En revanche, aujourd'hui, c'est un peu moitié-moitié.
Ouais.
Pour moi, voilà.
Ouais. Et comment est-ce que... Enfin, combien de temps est-ce que cette collaboration a duré dans cette configuration de trois quarts temps?
Je suis partie, je me suis installée en janvier 2004. Donc, 4 ans après ma prestation de serment, quand on n'en peut plus.
Oui.
Quand on se dit à un moment, c'est plus possible parce que on adore son patron, mais il exagère trop.
que... Il exagère trop. Comment ça, il exagère
sur les horaires, sur... Enfin, voilà, je pense que c'est un peu le lot aussi de, à un moment, de se dire j'ai grandi, j'ai envie de voler de mes propres ailes, et puis je supporte pas qu'on m'envoie à 2h du matin en garde à vue. Enfin, voilà. Non, j'extrapole, mais je pense que c'était pas loin de la réalité. J'en pouvais plus.
Ouais.
Et puis, je me suis installée avec une copine de fac qui, elle, faisait du droit du travail. Et là, j'ai vraiment pu développer tout ce qui était l'application des peines et le droit pénitentiaire.
Mmh. Enfin, vous précisez que vous vous êtes installée avec une copine de fac qui, elle, faisait du droit du travail. Il y avait des ponts entre vos activités ou c'était juste une installation
Non, il n'y avait aucun pont. C'était juste une installation pour être avec quelqu'un en qui on a confiance et avec qui. Mais il n'y avait pas de lien entre nos deux activités.
Et est-ce que c'était important pour vous de vous installer avec quelqu'un, c'est-à-dire de pas juste partir et prendre vos locaux, enfin, et éventuellement de partager les locaux avec d'autres confrères que vous connaissiez pas ou autre, mais est-ce que ça a été important pour vous de vous dire, est-ce que, je sais pas, ça a joué un rôle dans le fait de vous sentir à l'aise avec cette installation?
Alors, complètement, c'est-à-dire qu'en fait, on était toutes les deux au même moment, on se voyait beaucoup, hein, c'était une copine de fac, on continuait à avoir de bonnes relations. Et donc, il était important. En fait, l'idée a maturé pour nous deux en même temps. Donc, elle aussi, trouvant que la collaboration, au bout d'un moment, puis l'envie aussi, voilà, de voler de ses propres ailes. Et de se dire, bah, c'est le moment et on le fait toutes les deux. Je suis pas sûre que je serais partie si vite, s'il s'était agi de m'installer toute seule, je crois pas que je l'aurais fait. Je pense pas que j'aurais eu les épaules financières. Enfin, je pense que ça aurait été trop angoissant d'un point de vue financier. Et alors, aller avec des confrères que je ne connaissais pas, ça ne m'a même pas traversé l'esprit puisque j'avais cette possibilité.
Ouais. Et est-ce que vous vous souvenez de ce que ça vous a apporté à l'époque, du coup, une fois que vous vous êtes installés ensemble?
Je veux pas réinventer les souvenirs. Je pense qu'on était très excités. On a la recherche des locaux, le fait de signer le bail, de faire la propre déco qu'on a envie au sein du cabinet. Enfin, voilà, un peu ces côtés du neuf et du nouveau. Ça, je suis sûre que je réinvente rien. Après, je sais pas trop en termes d'angoisse, en termes de ce que ça a pu. De ce que ça a pu générer, j'ai pas trop de souvenirs.
Et comment ça s'est poursuivi une fois que vous vous êtes installé? Vous dites que là vous vous êtes pleinement dédié du coup au développement de votre clientèle en pénal et en pénitentiaire. Vous avez évoqué le fait que vous étiez aux trois quarts temps, donc j'imagine que vous aviez déjà un développement de clientèle personnel, alors même que vous étiez en collaboration. Est-ce que vous avez ressenti l'effet un peu appel d'air dont parlent pas mal d'avocats qui disent, ben, je m'inquiétais de est-ce que j'allais avoir assez de dossiers pour pouvoir remplir mes semaines, et puis en fait par la magie de l'installation, le mot a tourné et puis on m'a envoyé plein de dossiers, c'est comme ça. Vous, est-ce que vous avez le souvenir de cet appel d'air ou est-ce que ça a été plus complexe? Comment ça s'est déroulé?
J'ai pas le souvenir que ça a été complexe. Je suis partie avec quelques clients personnels que j'avais, qui n'étaient pas forcément du droit pénal d'ailleurs. Hein. Vous savez, les premiers divorces que la copine de papa vous envoie. Enfin voilà, donc c'était, il y avait cela qui traîne, enfin qui était encore en cours au cabinet. Et après, il y a eu un client, j'ai vraiment le souvenir, et on en rigole encore parce que je le vois encore de temps en temps, un client que mon ancien patron pénaliste m'avait envoyé pour m'occuper de son aménagement de peine, et qui a donné mon nom à plusieurs personnes en détention. Et là, ça a fait effectivement boule de neige pour m'orienter vers ce qui m'intéressait vraiment. Et ce client-là m'a orienté, donc, enfin, m'a recommandé auprès d'une personne.
Donc, vous avez fait quoi pour ce client?
Pour ce client, je l'ai accompagné dans son aménagement de peine. Mmh. Mais lui m'a recommandé à une autre personne qui était détenue dans un quartier d'isolement d'une maison d'arrêt de la région parisienne et avec qui j'ai vraiment eu des très bonnes relations. et qui m'a fait désigner par toutes les personnes des quartiers d'isolement dans lesquels ils se trouvaient. Ce qui fait que j'ai vraiment commencé une activité de droit pénitentiaire assez soutenue grâce à ces deux personnes.
Ouais.
Alors une que je vois encore qui est libre et qui a refait sa vie sans difficulté, et l'autre qui est décédée à sa sortie de détention. Mais c'est vraiment le moment où sont arrivés des dossiers, en tous les cas des dossiers de personnes qui avaient besoin d'un avocat qui leur fasse des recours contre les placements à l'isolement, des recours contre les statuts de détenus particulièrement signalés. Et on en a perdu beaucoup, on en a gagné un ou deux, mais ça a pu asseoir une forme de légitimité vis-à-vis d'eux, et donc ça a continué après le nom à circuler.
Et puis j'imagine que ça revient avec la sensation d'être délaissé, c'est-à-dire qu'au-delà de ce qu'on gagne ou ce qu'on perd, quelqu'un est en train de s'occuper de nous. C'est une assumption, mais
non, mais enfin, vous avez tout à fait raison. Il y en a notamment donc ce client qui m'aura envoyé un moment et qui n'est plus là de nos jours. M'a dit ça un jour. Il m'a dit, mais on s'en fiche que vous gagnez ou pas. L'important, c'est qu'il voit que on reste pas sans rien faire à accepter leurs décisions sans un moment se battre contre elles. Quand je dis leur décision, je parle de l'administration pénitentiaire.
Ouais.
Et effectivement, il me l'a dit à plusieurs reprises quand à un moment j'arrive un peu désespérée en disant on a encore perdu. Je dis, mais c'est pas grave. Voilà. Ce qui était pouvant remonter le moral parce que c'est une matière quand même extrêmement complexe et difficile en termes d'énergie à accepter de mettre. En sachant que on risque de prendre des sacrées gamelles.
Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste concrètement le droit pénitentiaire ? Donc, quand vous dites donc la question de l'application des peines et ensuite pour ces personnes en situation d'isolement, vous faites quoi comme recours ? Qui sont vos interlocuteurs ? Un petit peu le périmètre d'intervention, en quoi ça consiste?
Alors, il y a donc deux types d'intervention. Le droit de l'application des peines et le droit pénitentiaire. Le droit de l'application des peines, c'est la préparation des projets de sortie pour des personnes qui ont été condamnées à des plus ou moins longues peines. Donc, l'interlocuteur privilégié, c'est le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation qui va aider et qui va accompagner la personne détenue à préparer son projet. Et l'interlocuteur ultime, ce sera le juge de l'application des peines dans le débat contradictoire lorsqu'on viendra soutenir la demande d'aménagement de peine. Et parallèlement à cela, il y a aussi le droit pénitentiaire, mais qui là ne va pas concerner que des personnes condamnées, va aussi concerner toute personne détenue, donc qu'elle soit en détention provisoire ou condamnée, pour faire respecter les droits acquis au fur et à mesure des années, tant par la jurisprudence européenne ou des tribunaux administratifs que par la loi, faire respecter les droits qui sont les leurs. Alors le fait de pouvoir aller travailler, aller à l'école, ça c'est plus de la négociation avec l'administration pénitentiaire. Mais lorsqu'il y a alors un travail qui a été octroyé à la personne détenue, et puis à un moment, il y a une procédure de déclassement. On va dire à la personne détenue, soit vous avez trop de retard, soit donc on va vous retirer du travail. Et depuis plusieurs années maintenant, eh bien cela doit se faire après un débat contradictoire auquel l'avocat est convié. Je vous parlais du quartier d'isolement, ce qui est différent du quartier disciplinaire, puisque le quartier d'isolement, on ne doit pas d'ailleurs, c'est pas une sanction disciplinaire, c'est juste que l'administration considère que telle ou telle personne peut représenter un danger pour la sécurité de l'établissement et donc va le mettre dans un quartier isolé. Il aura une cellule comme celle qu'il pourrait avoir en détention normale, mais il n'aura pas d'activité, il ne verra personne. Et là, au gré des années, parce qu'il y a eu aussi, avant même que les avocats ne s'en mêlent, des détenus qui ont fait leur recours tout seuls, qui ont gagné des recours, permettant de justement ouvrir la voie de contestation, puisque auparavant c'était des mesures qu'on appelait des mesures d'ordre intérieur, qu'il était impossible de contester devant un juge, l'administration, et les juges disaient non, non, c'est le bon ordre de l'établissement, donc le juge n'a pas à mettre son nez dedans. Et donc, au fur et à mesure des années, et donc, eh bien, il y a eu l'ouverture des voies de recours. Et là, c'est là que nous intervenons maintenant pour aider les personnes détenues à faire des recours à l'encontre des décisions qui leur portent grief.
Et donc, très concrètement, pour une personne en situation d'isolement, ça va être sur le fait même d'être en situation d'isolement, ça va être... Enfin, je sais pas si situation d'isolement, c'est bien dit, mais c'est quel...
En fait, c'est faire des recours. L'isolement, ça a cette particularité, c'est une mesure qui se renouvelle tous les 3 mois. Sachant qu'un recours devant le tribunal administratif, puisque là, c'est le côté un peu publiciste du pénaliste.
Oui, oui, j'allais vous dire, c'était une de mes questions ensuite.
Mais... Donc là, pour les mesures de l'administration pénitentiaire, on les conteste devant les tribunaux administratifs. Et donc, ça se renouvelle tous les 3 mois. Quand on a des délais des tribunaux administratifs qui peuvent être sur du 6 à 18 mois, on a le temps de voir renouveler les mesures d'isolement de manière régulière sans que ça n'apporte grand-chose. Mais il s'agit en fait de faire des recours pour montrer aussi à l'administration pénitentiaire qu'on n'accepte pas les motifs qui sont retenus pour justifier cette mesure d'isolement. Nous avons sur l'isolement par exemple, hein, parce que c'est vraiment une mesure qui est terrible, parce que en plus la Convention européenne des droits de l'homme, enfin la Cour européenne des droits de l'homme, pardon, a pu admettre que plus la durait, plus c'était une mesure qui pouvait s'assimiler à de la torture blanche, le fait de n'avoir aucun contact social pendant des années est vraiment problématique. Mais voilà, donc ce sont des recours que nous engageons devant les juridictions administratives. De temps en temps, on gagne sur un référé, suspension. Enfin voilà, il y a après des mesures et des recours qui peuvent être enclenchés, mais c'est assez rare et les juridictions administratives sont assez peu enclines à mettre leur nez dans les motifs de l'administration pénitentiaire, donc c'est pour ça qu'il y a encore vraiment beaucoup de combats à mener.
Comment ça s'explique ?
Je pense que les juges administratifs se disent que si l'administration le fait, c'est qu'elle a une bonne raison de le faire. Donc ils regardent en revanche, et ils peuvent annuler sur des vices de forme, mais sur le fond des dossiers, ils sont encore assez frileux pour se dire on va pas aller mettre le nez dans quelque chose qui nous dépasse, puisque les juges administratifs, encore moins que les juges judiciaires, ne se déplacent pas dans les prisons, ne voient pas, et sont des juges de l'administration avec des forts liens avec l'administration. Après, je veux pas dire, hein, je veux pas généraliser non plus. On peut avoir des bonnes décisions, on peut avoir des juges courageux comme partout, mais on sent aussi une forme d'acceptabilité. C'est la prison. Le directeur, il sait ce qu'il fait. Il a des bonnes raisons pour le faire. Et même si nous, on vient apporter un certain nombre d'éléments démontrant que non, ce ne sont pas des bonnes raisons. Et que surtout, ça fait 10 ans, et là je vais parler d'une autre mesure qui est le détenu particulièrement signalé, qui est une mesure particulière de surveillance accentuée sur des personnes détenues. Alors pas d'isolement, hein, ils sont dans la communauté des détenus, mais avec des mesures de sécurité renforcées. Ça fait 10 ans. Et on explique au juge administratif que ça fait 10 ans que pour ce motif-là, cette personne subit ce statut de détenu particulièrement signalé et qu'il n'y a pas d'élément nouveau. Il n'y a pas d'élément qui permettrait de justifier ce statut de... Eh bien, le juge administratif dit bon, non, quand même. Si l'administration le fait, elle sait pourquoi elle le fait.
Vous avez parlé des éléments de... qui viennent soutenir vos... Sur quel genre d'éléments est-ce que vous vous appuyez ? Enfin, c'est quoi votre base de preuves ? Qui sont les personnes avec qui vous êtes amenée, est-ce que vous êtes amenée à travailler en collaboration avec d'autres types de professions pour soutenir votre travail? Enfin, comment est-ce que vous construisez en fait vos dossiers, votre argumentation, eu égard du coup au caractère particulier de où est-ce que tout ça se déroule, quoi?
Sur le droit pénitentiaire, on peut discuter avec les surveillants, je discute souvent avec les personnels, ceux qui sont au plus près, en fait, en plus des personnes qui sont mes clients. On discute avec les CEPIP, on peut être amené à discuter, alors, dans une moindre mesure, mais avec l'équipe médicale, avec l'équipe psy. Pour autant, le problème de la preuve est un vrai problème, puisque... des attestations de la part de surveillants qui diront que telle personne se comporte bien, on les obtiendra pas. Ils sont soumis à un devoir vis-à-vis de leur hiérarchie, donc on n'obtiendra pas. Donc c'est aussi tout le problème de la preuve qui fait que parfois, très souvent, difficile d'apporter des éléments de preuve à l'administration, au juge administratif pour contrer un argument de l'administration pénitentiaire. Ben là, on va se dire que pas baisser les bras et faire le recours, tout en sachant qu'en fait on le fait pour une question de principe et parce qu'on veut pas abandonner la personne qui compte sur nous, mais en sachant qu'il y a un vrai risque de rejet. C'est extrêmement frustrant, c'est compliqué, donc on essaye de monter alors aussi les dossiers sur les rapports qu'on pourra lire du contrôleur général des lieux de privation de liberté, de l'OIP, les revues de l'OIP qui peuvent des fois pointer telle problématique dans tel endroit et qui vont pouvoir nous servir pour intéresser le juge administratif. Parce que le juge administratif peut pas se baser sur ce que nous on va relever dans un rapport du CGLPL qui dira bah non mais c'est très général, vous ne m'apportez pas la preuve que cela s'applique à votre client. Mais ça peut l'intéresser, ça peut lui permettre de se poser des questions et peut-être de se dire à un moment bah je vais aller en prison, je vais aller regarder, c'est très rare, ou je vais faire une sorte d'enquête, il en a la possibilité. C'est très rare aussi. Mais c'est un peu le côté difficile en fait de cette matière.
Et vous avez donc vous évoquez l'aspect difficile de cette matière et finalement le faible taux de succès par rapport à toutes les actions qui sont initiées et engagées. Et comment est-ce que quand vous étiez plus jeune, et j'imagine que encore aujourd'hui, ça peut peser. Enfin, ça rend la chose difficile. Comment est-ce que vous tenez en fait face à ça?
Alors quand j'étais plus jeune, j'ai le souvenir qu'à chaque fois ça me remobilisait plus fortement pour me dire c'est pas grave. J'ai peur en vieillissant de me résigner un petit peu plus vite. Et depuis un certain nombre d'années, entre l'Observatoire international des prisons, une association qu'on a créée...
Qui s'appelle ?
Alors, la 3D, Avocat pour la défense des droits des détenus, qui est une association qui avait été présidée par Sylvain Gaucher, un confrère de Clermont-Ferrand, aujourd'hui présidée par Amélie Morino, une consœur de Paris. C'est une association qui a été créée en 2015 par des avocats assez proches de l'OIP.
Donc l'OIP, c'est
l'Observatoire international des prisons. Je dois dire que le fait de pouvoir se compter sur les autres, puisque nous sommes à peu près dans la 3D, une centaine d'avocats sur tout le territoire et même en Outre-mer, fait que lorsqu'on a un coup de mou, on peut en parler à d'autres personnes qui vivent la même chose que nous. Donc cela, c'est quelque chose d'extrêmement stimulant pour se rebooster, et puis se dire « Ok, c'est pas passé cette fois-là, mais peut-être qu'il y a quelque chose que je n'avais pas vu. Est-ce que vous pensez à autre chose ?» Il y a des idées qui émergent, et il y a des « Ben attends, mais moi j'ai eu une bonne décision à tel endroit, je te l'envoie, recommence, enfin voilà. » Et donc ça permet aussi de tenir et de se dire « On n'est pas tout seul. »
100 personnes, c'est peu.
Sur une matière qui a 20 ans, qui est assez peu connue encore, qui a été très peu enseignée, mais qui maintenant est enseignée tant à l'université que dans les écoles du barreau, c'est pas si mal. Bien sûr qu'on aimerait être plus, mais c'est pas si mal et ça montre qu'il y a des avocats un peu partout en France qui sont extrêmement mobilisés sur ces questions. Donc c'est plutôt, on est encore sur une matière assez jeune.
Oui.
Qui va se développer au fur et à mesure parce que même dans les écoles du barreau, on enseigne cette matière. Il y a des master 2 qui ont été créés sur la pénologie, sur le droit de la peine. Donc voilà, on sait que ça va venir.
Ouais, ben peut-être grâce à cette interview, de nouveaux intérêts vont s'éveiller.
Est-ce que ce serait génial.
Par rapport, vous évoquez que vous y êtes aussi venu parce que encore une fois, ce détenu qui vous a dit, ben en fait, nous on est délaissés. Est-ce que vous avez la sensation que parmi les confrères pénalistes, il y a encore trop peu justement de curiosité, d'intérêt, de sensibilisation à l'après?
Alors, je dois dire que sur l'application des peines, de moins en moins. En fait, on se rend compte que on a vraiment maintenant chez les avocats pénalistes, en tous les cas que je côtoie, ou une volonté d'aller jusqu'au bout et donc de préparer les dossiers d'aménagement de peine de leurs clients et d'être là au moment du débat devant le juge de l'application des peines. Je trouve que vraiment il y a une forme enfin cette volonté existe. Sur le droit pénitentiaire, un peu moins, mais parce que c'est du droit public. Mmh. Et il y a je pense que pour nombre d'avocats qui ont fait de cette matière une sorte une activité dominante, je dois dire que je suis pas mécontente que certains avocats pénalistes se désintéressent, puisque pour revenir sur une de vos questions au tout début, ouais. Moi je suis certains clients que je défends au pénal, mais sinon je récupère effectivement des dossiers de personnes qui ont été défendues par des confrères et qui, pour l'application des peines, viennent vers moi
travailler en complément.
Pour travailler en complément ou me dire, bah en fait voilà, lui il en fait pas, vous en faites, est-ce que vous pouvez prendre mon dossier? Mais cependant, sur l'application des peines, véritablement, je trouve qu'il y a eu une prise de conscience ou en tous les cas, une volonté de nombreux confrères pénalistes d'aller jusqu'au bout.
Oui, c'est vrai que sur le fait de travailler comme ça en collaboration avec d'autres confrères, de passer la main, mais pour passer la main, encore faut-il savoir qu'il y a de l'après et que ça peut être intéressant pour son client de continuer à être encadré par une autre personne. Sur les nouvelles problématiques qui vont se poser pour lui.
Alors, on ne l'ignore plus, notamment parce que nos clients sont ultra informés. Alors, pas toujours à bon escient, hein, mais ils savent aussi qu'il y a de l'application des peines, ils savent ce qu'ils vont pouvoir demander. Donc, de toute façon, l'avocat ne peut plus ignorer. Même celui qui se désintéresserait de la matière de l'après ne peut plus l'ignorer parce que, de toute façon, son client va le solliciter dessus.
C'est intéressant ça, finalement le client est mieux informé, ou en tout cas est informé, et vient la demande vient pousser le développement de la matière et de la pratique. Est-ce que et vous dites parfois le client est informé ou a des informations parfois pas les bonnes, enfin, mais comment se fait cette, enfin, j'imagine que c'est les détenus qui parlent entre eux, mais du coup, qu'est-ce qui relève de dans les informations, dans les quand dira-t-on, j'ai envie de dire, que vous percevez du fait de ces clients, qu'est-ce qui relève d'une mauvaise information, qu'est-ce qui relève d'une bonne information, quel serait le rôle de la pédagogie envers les détenus, enfin, comment tout ça, quelle est votre perception de tout ça?
C'est un peu, alors là, j'imagine, comme dans toute matière, le fait de parler les uns avec les autres et de comparer ces dossiers, de dire, bah, moi, je sais que je vais pouvoir prétendre à ça parce qu'un tel, à côté, il a eu ça et qu'il a une fin de peine comme la mienne, mais monsieur, vous avez oublié que vous êtes en récidive et que lui ne l'est pas. Enfin, ouais. Ou, en tous les cas, de rappeler que les dossiers des uns ne peuvent pas être copiés-collés sur les autres. Ça, c'est sur les mauvaises informations. Il y a aussi des mauvaises interprétations des textes de loi. Au moment du Covid l'année dernière, quand il y a eu les ordonnances qui sont sorties sur qui allait pouvoir sortir de prison en fin de peine, ou parce qu'on entendait oui, mais tel détenu malade va pouvoir sortir de prison. Tous s'imaginaient que parce que il y avait une pathologie, ils allaient pouvoir sortir de prison, alors que, enfin voilà, donc il y a beaucoup de effectivement de candidats à ton, de répétitions, de mauvaises informations. Et parallèlement à ça, et je dois dire que dans certains établissements, et pour le savoir, puisque j'ai des clients qui font partie de ce genre d'initiative, il y a des canaux vidéo. Et dans certains établissements, en fait, vous avez des personnes détenues qui s'occupent, un peu comme des journalistes, un peu comme des personnes qui feraient des podcasts, ouais. Qui invitent des juges de l'application des peines, qui font de l'information collective. Et ça, c'est assez fascinant, en fait, de voir que là, ils s'emparent de l'information pour la transmettre aux autres, en allant chercher les bons interlocuteurs et en ne se focalisant pas sur ce qu'ils ont pu entendre et tout ça. Et ça, je trouve que même en termes de projet de réinsertion et tout, ouais. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Mais ça permet surtout de diffuser l'information pour qu'ils sachent qu'il y a quatre mesures d'aménagement de peine, ce que c'est, ce que va impliquer le bracelet électronique, ce que va impliquer la semi-liberté, et ils sont souvent très informés.
Ouais. Et vous avez évoqué l'aspect très droit administratif de la partie droit pénitentiaire. Vous étiez formé au droit administratif ?
Non.
Vous êtes formée sur le tas.
Je me suis formée sur le tas grâce à l'OIP, à l'Observatoire international des prisons, parce que quand j'ai commencé vraiment à me lancer dans cette matière, je les ai contactés. Et puis avec les responsables des pôles contentieux successifs, Hugues de Surmain ou Nicolas Ferrand, qui sont ceux qui ont monté le contentieux de l'OIP, qui sont là pour, qui m'ont pas mal aidée. Voilà, c'est vraiment sur le tard j'avais fait un peu de droit administratif à la fac,
oui,
mais
oui.
J'ai pas de formation de droit public.
Ouais. Et vous dites que vous avez contacté l'OIP, c'est finalement un des seuls acteurs un peu prépondérants dans ce domaine, ou est-ce qu'il y en a d'autres ?
Alors, vu que je le préside maintenant depuis 5 ans, je vais dire que c'est le seul.
Ok, très bien.
Non, non. Disons que non, je peux pas dire ça. Ce serait, mais c'est vraiment une association. Mais je suis pas très objective.
De référence.
Okay. Mais c'est une association de référence. C'est une association qui sait ce qui se passe à l'intérieur, même si elle n'y rentre pas. Hein, nous ne rentrons pas en détention. Sauf par l'intermédiaire des professionnels qui militent à l'association, mais les personnels de la ne rentrent pas en détention. Alors, pardon, c'est pas tout à fait vrai. Il y a une journaliste qui peut donc accompagner parfois les parlementaires, mais on n'a pas le pouvoir de demander, de toquer à la porte d'une prison et de dire on a envie de rentrer, comme peut faire le contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui est une autorité administrative. Nous sommes une association. Et oui, qui a une expertise, qui a une réflexion sur les politiques pénales, les politiques pénitentiaires, et qui depuis maintenant 15 ans a développé une vraie expertise contentieuse.
Mais c'est ce que j'allais vous demander. C'est des contentieux qu'ils initient sur des cas particuliers, sur des contentieux de principe. Comment est-ce que fonctionne cette pratique contentieuse ?
Alors, on ne peut pas intervenir sur les cas particuliers parce que ce serait trop compliqué. Et puis on n'est pas là pour prendre la place des avocats. Donc, à partir du moment où un client a un problème particulier, l'OIP le renvoie vers des avocats. En revanche, il peut arriver que ce problème particulier fasse partie de quelque chose de beaucoup plus global sur lequel l'OIP a envie d'intervenir et dans ce cas-là peut faire une intervention volontaire sur un cas particulier. Mais nous intervenons effectivement plus sur des problématiques globales. Donc, quand on a initié les recours contre les conditions de détention indignes de Fresnes, la maison d'arrêt de Fresnes, qu'on est venu aussi sur les conditions indignes au Beaumet il y a un certain temps, qu'on a initié la campagne contentieuse, alors là, accompagnée d'un certain nombre d'avocats sur 5 maisons d'arrêt surpeuplées et aux conditions indignes, avec l'arrêt, la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 30 janvier 2000, 30 janvier 2020, qui impose à la France de réfléchir à des moyens efficaces pour lutter contre la surpopulation. Voilà, donc on est plus sur des campagnes contentieuses et globales que sur... On n'a pas la capacité, on n'a pas les moyens pour... Et puis parce que c'est pas notre rôle. Oui. Enfin, il y a des avocats et c'est à eux aussi de porter les contentieux de leurs clients.
Et donc vous, quand vous étiez jeune avocate et que vous vous lancez dans ce développement-là d'activité et d'intérêt, en tout cas, vous aviez identifié l'OIP comme un interlocuteur qui pouvait... vous être utile.
Alors j'étais déjà adhérente à l'OIP, c'était dans la continuité du Génépi, c'est souvent un peu le cas. C'est vrai qu'à un moment j'ai contacté le responsable contentieux en disant en fait là je me retrouve dans une situation, comment je peux faire, est-ce que tu peux m'aider? Et il m'a aidé, il m'a accompagné dans la construction du recours. Et donc, et c'est au fur et à mesure, en fait, des lectures, des discussions avec et avec des publicistes, puisqu'au sein de la 3D, donc l'autre association, il y a des pénalistes et des publicistes.
Ouais. Et pour en revenir à vous, votre développement de carrière, donc vous vous installez, il y a cette, vous dites que vous n'avez pas le souvenir que ça a été particulièrement difficile en termes de développement d'activité, pas en termes psychologiques et moraux. Est-ce que ça a tout de suite été très pénitentiaire? Est-ce que vous avez quand même gardé une activité pénale? Comment ça s'est dessiné de ce point de vue-là? Et aussi une autre question qui est d'un point de vue plus financier, est-ce que vous avez fonctionné à l'heure? Est-ce que vous fonctionnez, enfin, au forfait? Ça marche comment, en fait, en termes de tarification de ces activités-là?
Alors, je vais revenir sur un point. J'ai dit que j'avais pas le souvenir que ça a été très difficile. Après, il y a eu des hauts et des bas, et notamment d'un point de vue financier. Parce que j'ai pu développer la matière pénale. Après, j'avais donc ces quelques dossiers de civils qui restaient de mon activité, mais que je n'ai plus maintenant, hein, qui ont disparu. En fait, maintenant, quand je suis contactée, je renvoie vers des confrères. Après, il y a eu des sales périodes d'un point de vue financier. Parce que c'est pas une matière qui... En tous les cas, quand je débutais, c'était compliqué de demander beaucoup d'honoraires. Et on peut pas fonctionner à l'heure, c'est pas possible. Entre les déplacements dans les maisons d'arrêt ou les centres de détention ou les maisons centrales qui sont parfois à l'autre bout de la France, c'est juste pas possible. Donc on fait au forfait avec des personnes détenues qui parfois n'ont plus personne, donc qui vous envoient 50€ sur leur mandat chaque mois. Enfin voilà, c'est ou par virement, mais parce que vous voulez pas les abandonner parce que le dossier vous intéresse, et puis d'autres à qui vous allez refuser l'aide juridictionnelle parce que c'est trop loin, que c'est trop compliqué, que voilà. Donc on essaye de gérer le rapport à l'argent qui n'est pas simple.
Qu'est-ce qui vous a permis de sortir des sales périodes, justement?
J'ai un mari fonctionnaire. Voilà. Enfin, vraiment, je pense que s'il n'avait pas été là, s'il n'avait pas le soutien, de se dire, bah, fais ce qui te plaît et fais ce que t'as envie, même si c'est chiant parce que t'es parfois parti 3 jours pour faire le tour des tôles. Et vraiment, j'ai eu une chance folle, en fait, d'avoir un mari qui avait une assise financière.
Ouais.
Qui nous a permis et qui m'a permis de faire ce qui me plaisait.
Ouais.
Je pense que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, et voilà. Et on me pose souvent la question quand je donne des cours à l'EFB sur l'application des peines, en disant mais comment vous faites? Parce qu'on peut rappeler quand même que un dossier d'aménagement de peine c'est 5 UV, donc à 30€ l'UV, et ben c'est 130€ pour faire les préparations au débat contradictoire, la préparation du dossier et le débat contradictoire. Donc c'est pas gérable en termes d'économie de cabinet, c'est pas possible. Donc voilà, c'est mais sans le soutien familial, c'était pas jouable.
Et est-ce que c'est toujours le cas, ou est-ce que maintenant vous considérez votre activité est rentable d'un point de vue économique?
Ça va mieux. Je vous dirais pas que c'est une totale rentabilité. C'est encore parfois compliqué, mais ça va beaucoup mieux parce que je crois que les 20 ans qui se sont écoulés, une forme de légitimité même pour les clients fait que j'arrive à en plus leur demander plus d'honoraires.
Ouais.
Enfin voilà, donc ça va mieux. Non, je suis pas à plaindre.
C'était pas du tout le propos, mais et du coup dans cette évolution de ça va mieux, vous avez dit que maintenant vous arrivez à demander plus d'honoraires, la légitimité, la reconnaissance du milieu, toutes ces choses qui ont influé sur la capacité à demander des honoraires, enfin à tarifer ces services autrement. Vous avez senti un switch à un moment? Parce que par exemple, quand j'ai interviewé Maître Eolas, à un moment, il a dit voilà, j'ai arrêté de prendre des dossiers à la J. Dans ma posture envers les clients, je m'affirmais plus en fait dans les montants que je demandais, etc. Sachant qu'il explique dans son interview qu'il est passé par une période vraiment difficile de son cabinet avec l'aide du barreau, des confrères en difficulté, etc. Et donc que ça avait impliqué une restructuration et donc aussi une manière de prendre des dossiers et de se tarifer autrement. Est-ce que vous avez senti un moment, est-ce que ça a été vraiment très progressif? Est-ce que vous aussi, il y a un moment où vous vous êtes dit, bon, en fait, je vais vraiment faire les choses autrement parce que c'est pas possible que ce soit genre quasiment du pro bono finalement une association en interne dans votre famille pour le soutien des détenus. Comment ça s'est configuré pour vous?
Ça s'est fait ça a été très, très progressif. Et je pense que c'est il y a 5 ou 6 ans où là vraiment, peut-être parce qu'il y a eu des mises en liberté de personnes, des aménagements de peine de personnes qui étaient détenues depuis de très longues peines et tout, et donc ça s'est su. Et donc voilà, et ça m'a effectivement fortifiée dans la relation avec l'autre pour dire. Tu connais mon travail, je connais la valeur de mon travail, et donc je peux pas accepter. Alors, l'aide juridictionnelle, je l'accepte vraiment très rarement sur l'application des peines compte tenu de ce que je vous ai dit. Enfin, c'est pas possible. Mon activité s'est orientée vraiment vers la défense de personnes qui sont condamnées à des très longues peines de prison, donc qui vont pas demander un travail sur 1, 2 ou 3 ans. Je fais aussi de l'application des peines sur des personnes avec des peines moins longues, mais on est quand même sur encore à 4-5 ans de la fin de peine, donc ça va demander du temps. Donc c'est pas possible l'aide juridictionnelle, et je leur explique et voilà, et je pense qu'ils comprennent. Après je leur dis ça va être payé en plusieurs fois, il y a pas de souci monsieur, je vous demande pas ça d'un coup. Voilà, après je peux prendre de l'aide juridictionnelle sur le droit pénitentiaire parce que parfois, on est vraiment face à des personnes qui ont rien, mais vraiment rien. Et puis, c'est mieux payé. Enfin, l'aide juridictionnelle sur un dossier OTA est quand même mieux rémunérée. Mmh. Mais dans l'absolu, j'essaie d'éviter. Mmh. Après, j'ai 1 ou 2 dossiers de total pro bono, où ça m'embête même de prendre l'aide juridictionnelle, parce qu'il faut faire le dossier, il faut renvoyer l'AFM pour... C'est
finalement,
terrible.
Ça rembourse le fait d'avoir pris ce temps, quoi.
C'est ça.
Ouais.
Bon, mais j'en ai plus beaucoup. Enfin, j'en ai plus qu'un. J'en ai 2.
Et donc, vous dites que votre activité s'est orientée progressivement vers les détenus de très longues peines. Est-ce que ça a été pour une question de réalité économique? Est-ce que c'est là qu'il y avait le plus de demandes ou de besoins? Est-ce que c'était un intérêt particulier pour ces situations là particulières? Comment en fait est-ce que vous avez fait évoluer votre activité de ce point de vue-là?
Ça peut pas du tout être la réalité économique parce que c'est un gouffre. Les longues peines, on sait pas comment ça va se passer, on sait pas sous quel délai, donc c'est très compliqué. L'intérêt personnel, évidemment. C'est-à-dire que j'ai croisé, et j'ai encore des clients, ça fait 15 ans que je les suis, ils sont encore pas dehors. On travaille au fait qu'ils puissent... mais voilà, et c'est... au travers des rencontres de l'un ou l'autre. Et puis, bah, pareil, après, ils sont détenus dans tel ou tel établissement, ou donc souvent des maisons centrales. Et puis là, le nom circule. Et voilà. Donc ça, c'est une orientation que je ne regrette pas d'un point de vue sur l'intérêt du métier, sur et puis sur vraiment l'intérêt d'être là. Et d'avoir quelqu'un d'assez stable dans leur parcours, parce que souvent les CPIP, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, ils changent, les juges d'application des peines changent. Et je me dis que ça peut être un intérêt aussi pour eux d'avoir quelqu'un d'assez stable autour d'eux, qui aura vécu avec eux un certain nombre de choses, alors évidemment pas la détention, hein, mais qui aura vécu certains événements de leur vie aussi, les naissances, les décès des parents, et de permettre après qu'au final, au moment de l'acte ultime dans le débat contradictoire, eh bien, on puisse aussi avoir quelqu'un qui va pouvoir parler de tout ça, qui va pouvoir expliquer pourquoi maintenant il est temps et que ça suffit. La prison n'a plus de sens. Donc ça, c'est vraiment le truc qui m'intéresse et me motive, même avec des décisions de rejet où je peux pleurer, je peux insulter le magistrat, je peux le traiter de tous les noms, et puis me remettre à pleurer, et puis après de me dire, allez, c'est pas grave, on va repartir. Et on va analyser ce jugement, on va comprendre pourquoi, et on va réexpliquer ce qui va pas au client, et voilà. Et ça, c'est le truc qui, je trouve, extrêmement intéressant, émotionnellement, intellectuellement, dans la relation à l'autre.
Mmh. Et donc vous évoquez cette posture d'un suivi sur le long terme avec quelque chose qui finalement n'a plus rien à voir avec le droit, qui est aussi dans la relation à l'autre. Enfin, bien sûr que ça apporte quelque chose d'avoir cette qualité de suivi, parce que au moment de faire un recours, on a cette connaissance fine de la situation qui permet de construire un dossier qui soit fin et nuancé de qualité. Mais est-ce que ça vous a posé la question d'aussi vous former à d'autres matières, de la psychologie, est-ce que ça a été une question pour vous, parce que je dis ça dans le sens où il y a ses confrères, et notamment les confrères qui accompagnent des personnes et des personnes en situation vulnérable, qui disent je suis pas psy, quoi. Et en fait, je me rends compte que dans mon échange avec mes clients, 80% de ce qu'ils me demandent, en réalité, de leur réel besoin, c'est plus le besoin d'avoir une personne à qui parler et d'être cette personne qui va être leur écoute, quoi. Vous, est-ce que du coup ça a été un sujet, et comment vous avez navigué autour de ça?
Alors, pour revenir 20 ans en arrière, j'avais fait l'Institut de criminologie de Paris à Sas. Mmh. Bon, alors maintenant c'est très ancien et je peux pas dire que ça m'a que j'ai des souvenirs fous de ce que j'ai pu apprendre dans les deux certificats, mais ça avait donné une sorte de base à mon avis, et je tente de lire aussi encore des choses de criminologie, ce serait pas inintéressant peut-être que j'y réfléchisse, mais là j'ai pas le temps. Ouais. Enfin voilà. Et après, je maintiens aussi que je suis pas psy.
Ouais.
Enfin voilà, je pourrais avoir la même réponse qu'eux, je suis pas psy. Je fais du droit. Et vous avez commencé votre question sur, ok, on s'éloigne un peu du droit. Non, je suis aussi là pour rappeler aux magistrats qu'on a des conditions d'un aménagement de peine, que la personne les remplit, parce que telle et telle chose, mais avec cette vision peut-être plus globale que j'aurais eue, et de nourrir une plaidoirie juridique avec des éléments plus personnels et voilà. Mais je suis quand même là pour leur rappeler qu'il y a une disposition dans le code qui dit que la sortie, elle doit se préparer, que il faut éviter les sorties sèches, et notamment pour des personnes condamnées à des très longues peines de prison ou qui ont passé déjà 5, 6, 7, 10 ans en détention. Donc je pense qu'il y a une sorte de mix un peu de tout, c'est sûr. Mais en face de moi, souvent les juges de l'application des peines ont fait sûrement des études de psy ou se sont intéressés, parce que j'en vois beaucoup aussi qui ont cette notion-là. Il y en a certains qui sont totalement hermétiques, et ceux-là, j'ai même pas envie d'en parler parce que ce sont ceux que j'insulte quand je lis leurs décisions. Mais il y en a beaucoup qui savent aussi. Et qui, au travers des questions qu'ils posent en débat, ont perçu quelque chose qui de plus intime, de plus personnel. Et voilà. Mais après, on est quand même là pour faire du droit. On accompagne. Et mon rôle, c'est d'être sur un aménagement de peine. Pourquoi il y a le droit ? Je dis quand même souvent aux clients, vous n'avez pas un droit à l'aménagement de peine. C'est le droit de demander un aménagement de peine, mais après, vous avez des conditions à remplir pour que le juge vous le. Mais il y a des moments où en fait, c'est plus possible de les maintenir en détention. Et que là, je dis, ils ont le droit. Ils doivent obtenir cet aménagement de peine. Bon, je suis pas toujours écoutée, mais ça va quand même.
Vous diriez que, enfin, qu'on se rende un petit peu compte de c'est quoi votre proportion de succès? Est-ce que vous avez une macro? Qu'on se rend compte de la part de ce qui alimente et donne de la force et du courage versus de la part qui draine.
Sur l'aménagement de peine, c'est beaucoup plus que sur le droit pénitentiaire. Okay. Donc ça maintient. J'ai pas fait de statistiques, j'ai pas envie de faire de statistiques. Déjà parce que je serais très prétentieuse de vous dire ça marche tout le temps, ça marche pas tout le temps. Ça marche souvent.
Ouais.
Ça marche souvent quand les dossiers sont bien construits, quand il y a eu un vrai accompagnement et du CEPIP, de l'avocat, vraiment ça marche. Souvent, il y a des échecs. Il y a des échecs que je voyais venir. Il y en a d'autres que je n'ai pas vu venir et c'est là où je m'en veux un peu plus parfois, parce que le débat s'est bien déroulé, parce que le client a bien répondu, a fait les choses comme il fallait et là ça passe pas. Et là, bon, c'est rare, mais ça arrive. Il y a des échecs que j'avais prévus. Où là, j'avais même dit au client, écoutez, c'est peut-être un peu tôt, en fait. On va demander un renvoi, et s'il n'accepte pas le renvoi, on va se désister. Et le client dit, non, on tente. Et ça loupe pas. Je suis assez peu là-dessus, je suis assez fière de mon sens. Et puis sinon, non, ça... Je trouve que on est... Enfin, l'application des peines a cette... cet avantage d'être quand même, on est face à des magistrats qui ont envie d'être là, dans la plupart du temps, et qui savent pourquoi ils sont là. Et moi, je trouve ça très sympa d'échanger avec eux, de pouvoir dire, je vais pas plaider le dossier avec vous avant dans votre bureau, mais voilà, dites-moi juste si je me plante. Et là, ils me disent, vous vous plantez. Donc, on reconstruit. Et je trouve, en tous les cas, ceux que je fréquente, après je connais pas les Jacques de toute la France, et mais je trouve qu'en établissement pour peine, et parfois aussi en maison d'arrêt, on tombe sur des magistrats très très sensibles, déjà au fait qu'il y ait un avocat qui s'y connaisse, et ça, parce que c'est un peu pesant pour eux, je pense, d'avoir des fois des avocats qui vont plaider des choses qui ne sont pas possibles, parce que... Mais bon, ça c'est comme partout, hein.
Ouais.
Mais donc ils sont plus ouverts à l'idée de venir, quand je viens discuter avec eux, de me laisser rentrer dans le bureau et de me dire là vous faites fausse route, moi je pourrais pas accepter que telle ou telle mesure pour tel ou tel client, et donc on réoriente. Et ce qui fait qu'on perd pas de temps, ce qui fait que je triche un peu finalement quand je vous dis que j'ai beaucoup de succès, parce qu'en fait en amont j'aurais travaillé ça aussi.
Bah, vous trichez parce que ça fait partie de votre...
Il y a une sorte de collaboration qui peut s'établir avec un certain nombre de magistrats, et c'est très très valorisant dans le métier, dans ce qu'on peut apporter aussi aux clients.
Ouais. Et vous avez parlé donc de ce travail presque collaboratif avec le magistrat, de par les échanges que vous pouvez avoir qui vous permettent de réorienter le dossier avant que ça passe en audience. On appelle ça une audience, j'imagine. Et d'autres interlocuteurs. Est-ce que du coup, c'est aussi des dossiers que vous travaillez avec des associations d'insertion? Enfin, en pratique, en fait, comment vous travaillez ces dossiers?
Assez peu avec les associations d'insertion parce qu'elles sont, elles, en contact avec les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, et elles sont rarement en contact ou certaines refusent d'être en contact avec d'autres interlocuteurs que leurs partenaires institutionnels. Après, il y a certaines associations qui acceptent qu'on leur envoie des mails, qu'on leur pose des questions et qui nous répondent. Donc ça arrive, mais assez peu.
C'est étonnant, non? Enfin, moi, je trouve ça étonnant, mais peut-être que j'ai une mauvaise compréhension du milieu.
En fait, on peut leur, je sais pas si c'est étonnant. Je pense qu'après, il faut aussi, des fois, avoir une sorte de cycle normal de communication et essayer d'éviter de s'éparpiller. En revanche, on sait que ces associations ne pourront être saisies que par le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Donc, si moi j'appelle quelqu'un en leur disant, en fait j'ai tel client qui est très intéressé par votre association, oui, mais de toute façon il faut que vous passiez par le CEPIP. Donc au final, c'est aussi pour éviter d'avoir des trous, à mon avis, trop de fouillis autour. Et puis il y en a quand même un certain nombre qui répondent, qui disent bah oui, mais alors voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Vous dites au CEPIP de me contacter, je vais le convoquer à telle date. Ceci, ça arrive. Hein, je pense notamment à une ou deux en région parisienne où on a les mails et les téléphones perso des personnes pour les contacter. Mais de toute façon, on sait que ça devra passer par le CEPIP.
Et vous dites qu'il y a des dossiers où vous voyez les choses venir. C'est-à-dire vous. Il y a ceux où vous savez que ça va échouer et bon le client insiste et donc vous y allez et ça manque pas, mais voilà, et vous avez parlé aussi de ceux où vous sentez venir mais vous avez distingué de ceux où vous savez que ça va échouer. Vous pensez à quel genre de situation?
Je pense aux situations où on a un dossier avec que des avis défavorables. Donc le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation dit non, c'est trop tôt. On n'a pas travaillé ça et ça. On a même sur le projet ou le travail qu'il nous propose, on n'est pas très sûr. Si le CEPIP dit non, il y a très peu de chances que le juge de l'application des peines vienne dire oui après. Et dans ces cas-là, moi je préfère dire au client, écoutez, là c'est un peu, il soulève des points un peu intéressants sur lesquels je vais avoir du mal à répondre. Parce que si le CEPIP est complètement à côté de la plaque, et ça peut arriver, c'est déjà arrivé, où il avait fait n'importe quoi dans son rapport, où là j'ai pu le démonter à l'audience, et au final, je vais un peu contredire ce que je viens de dire, mais j'avais des arguments, et l'aménagement de peine a été octroyé malgré un avis défavorable. Mais parce qu'il y avait tellement d'erreurs que c'était facile de dire, en fait là, vous pouvez pas croire ce que vous... Mais... Dans beaucoup d'autres, quand l'avis est défavorable pour telle ou telle raison, et que ce sont des raisons dont je sais que le magistrat, pour un peu, si c'est surtout si c'est un magistrat que j'ai l'habitude de voir, avec lequel j'ai l'habitude de travailler, je sais que c'est impératif. Ça passera pas. Et la semaine dernière, d'ailleurs, j'ai recommandé à un client de se désister. Bon, il m'a écouté et tout le monde m'a dit, vous avez bien fait. Et lui a dit, en fait, oui, prenez juste un peu plus de temps, monsieur. C'est bien, là, tout ce que vous faites. Mais prenez un peu de temps, là, c'est trop tôt. Mais c'est arrivé parfois où les clients m'ont dit non, on y va. Et alors là, la plaidoirie est extrêmement compliquée parce que
oui.
D'habitude, on peut s'appuyer sur tout ce qui a été fait en détention, tout cela. Enfin, donc là, c'est compliqué et on fait un peu là. Je sais que je fais pas forcément quelque chose de très bien. C'est-à-dire que je dis, bah, vous apprécierez. Compte tenu, parce que je pense qu'il est aussi important que le JAP ne se dise pas que je n'ai pas vu les points négatifs.
Oui.
Parce que je pense qu'après, oui, quand votre je reviendrai...
Oui, quoi. Ouais. Vous avez besoin d'être crédible, ouais.
Quand je reviendrai avec lui la prochaine fois, je pourrais dire voilà. Et ou pour un autre, sur lequel vraiment j'ai un dossier, mais extrêmement complet, mais surtout avec un parquetier dont je sais qu'il va être un peu compliqué parce que la fin de peine va lui paraître lointaine, mais tout le monde est d'accord et tout... Je veux que ma crédibilité sur le fait que je défende le projet soit... Voilà. Ça, ils ont un peu du mal à comprendre, certains clients, en disant « oui, c'est que vous avez peur de l'affronter ». J'ai pas peur d'affronter un magistrat. Après, je veux l'affronter avec les bonnes armes. Mm-hmm. Et là, monsieur, j'ai pas les bonnes armes.
Et ils comprennent ?
La plupart, mais il y a quelques têtes dures.
Ouais.
Et ils vont à l'échec. Ouais. Et on est rejeté. Et ça fait baisser mes stats. Je dis ça en rigolant. Enfin, c'est une petite blague, mais...
Non, mais il faut pas les prendre. C'est évident, comme ça on garde des bonnes stats. Qu'est-ce que j'allais dire? Ça fait 20 ans que vous êtes dans ce milieu et que du coup vous persistez et signez dans cet engagement. Est-ce que vous avez... Il y a des batailles dont vous êtes particulièrement fiers, des dossiers qui ont marqué votre carrière, quel changement est-ce que vous avez vu dans ces 20 ans dans cette pratique?
Il y a une décision de la Cour européenne des droits de l'homme pour un client. Il y a une décision du Conseil d'État dont je sais que elles ont eu des conséquences pour deux clients qui m'étaient chers. Donc on a, sur une des décisions, le Conseil d'État a validé le fait qu'on pouvait faire un recours contre une décision de placement détenu particulièrement signalé. Donc ouais. Ça, c'est un client qu'on apporte, que j'ai porté. Voilà, une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, alors là, qui a vraiment été portée par l'OIP, mais c'est mon nom qui est dessus, donc je ne fais pas la bégueule. Mais c'était Hugues de Surmain à l'OIP qui avait vraiment beaucoup travaillé sur le recours et tout, mais voilà, c'est... Et après, je me dis qu'avec d'autres confrères qui ont toujours fait de l'application des peines, Étienne Noël, Virginie Bianchi... On a été des avocats qui en avons fait beaucoup tout de suite. Et je pense que on a donné envie. Et j'espère, en tous les cas, et que votre podcast y participera aussi, de dire que, au travers des colloques qu'on peut faire, des cours qu'on donne à l'EFB, qu'on, voilà, de se dire qu'on aura donné envie à d'autres de le faire avec nous. La crédibilité de l'avocat face au juge de l'application des peines, mais comme face à n'importe quel magistrat, mais je vais parler sur tout ça, c'est aussi de ne pas aller plaider un bracelet électronique pour quelqu'un qui en aura déjà eu 3 auparavant, dont on sait que un retour au domicile est problématique, et que l'avocat sache que là, il vaut mieux partir vers une semi-liberté dans un premier temps, voilà. Vous voyez, et que ça fait partie de la compétence de l'avocat, de savoir dire aussi au client, non, là, vous faites fausse route, on va plutôt partir sur ça. Et de me dire qu'au travers des cours que j'ai pu donner, ou des cours que nous avons pu collectivement donner, des colloques qu'on a pu faire, on a pu attirer des confrères vers la matière. Et ça, vraiment, oui, ce serait une fierté de me dire que j'aurais contribué à ça. Oui.
Et vous parlez de du fait de faire savoir cette expertise, ce qui se fait, ce qui est possible de transmettre à travers ces colloques. J'imagine que c'est des choses qui que vous avez... organisé à travers l'OIP et à travers les 3D.
La 3D, pardon.
Et vous dites aujourd'hui que vous présidez l'OIP. Est-ce que vos interventions pour l'OIP ont évolué dans le temps? Comment est-ce que à un moment vous êtes positionné sur la présidence? Enfin, comment ça s'est passé en fait? Enfin, positionné, ça fait très. Mais vous voyez ce que je veux dire dans cette engagement associatif. Moi, en fait, je me rends pas compte, l'OIP, est-ce que c'est beaucoup de personnes, vous voyez. Donc, pour retracer un petit peu cette évolution dans vos autres fonctions, entre guillemets.
Alors, les colloques, les interventions, pas forcément organisées par l'OIP ou la 3D, d'ailleurs. Hein. On peut être invité par d'autres barreaux, on peut être invité par... j'ai dû en faire une fois à l'Assemblée nationale, enfin voilà, d'organiser d'autres organisations autour de la prison ou du syndicat des avocats de France, enfin voilà. Je suis présidente depuis 2015 et je pense avoir, dans votre question sur le positionnement, forcément arriver maintenant à prendre plus facilement la parole. Parce que même quand on est avocat et qu'on peut penser à avocat qui plaide beaucoup, la prise de parole est toujours compliquée pour moi. Je pense avoir progressé quand même grâce aux colloques, grâce à quelques interventions dans les médias, même si j'ai toujours une boule au ventre parce que là, je porte la voix. Alors, je porte la voix d'une association. Vous portez la voix d'un client, vous portez la voix d'une association. Donc à chaque fois, il y a la boule au ventre de se dire, est-ce que le client va être content? Est-ce que l'association va se retrouver dans ce que vous portez? Ça, c'est assez... c'est toujours stressant. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on acquiert quelques automatismes. Et c'est terrible, d'ailleurs. Hein, et il faut aussi lutter contre ça, parce que c'est trop simple, après, de se dire qu'on peut faire n'importe quoi, parce que ça sera juste de la répétition. Voilà. Donc, je pense quand même que j'ai une boule un peu moins lourde dans le ventre.
Ouais.
Elle est toujours là, mais elle est un petit peu moins lourde. Après, ça dépend aussi en colloque des personnes avec lesquelles je vais me trouver. Si c'est des personnes dont je sais que j'ai l'habitude de les avoir dans des interventions, qu'on partage à peu près les mêmes idées, ce sera presque simple. Mais là, on sait aussi que quand on fait ça, c'est qu'on s'adresse à des personnes qu'on n'a pas besoin de convaincre. Alors que sur le thème de la prison, c'est important aussi de pouvoir parler de ce que nous défendons auprès du plus grand nombre. Mais des fois, il faut aller aussi un peu au combat, en fait, pour marquer ses idées et pouvoir défendre que la prison telle qu'elle existe en ce moment ne peut pas être une solution, que la prison en réalité n'est jamais une solution. Et voilà, et l'OIP m'a apporté en termes de réflexion aussi sur mon exercice professionnel, m'a beaucoup apporté. Sur des questionnements, sur des lectures aussi, vous me posiez la question tout à l'heure. Je suis un peu sortie de simplement la lecture de dossier, prison, dossier, parloir, dossier. J'ai ouvert un peu mon esprit au-delà pour... être capable de parler sur ces sujets, mais en ayant un peu de recul, un peu plus de hauteur.
Et donc, vous évoquez le stress, une certaine forme de timidité au moment de prendre la parole. Et c'est étonnant parce que... Enfin, c'est étonnant. Ce que je vois beaucoup chez les avocates, c'est aucune difficulté pour parler pour quelqu'un d'autre. Enfin, aucune difficulté. Pas de difficulté majeure à parler pour quelqu'un d'autre, mais plus de difficulté au moment de se défendre soi et de porter sa propre voix, indépendamment de celle de ses clients ou de ses associations. Et vous soulignez à quel point, enfin voilà, au moment d'évoquer votre positionnement progressif au sein de l'OIP, vous évoquez le fait que, au contraire, ou je ne sais pas si c'est une notion de contraire, mais en tout cas que vous concernant, parler pour, que ce soit pour les clients ou pour l'association que vous représentez, c'était stressant et que maintenant c'est un petit peu moins stressant, mais que ça reste stressant. Et donc, est-ce que c'est justement un gain de sentiment de légitimité ou un gain de confiance avec les interlocuteurs et avec l'association ou les personnes que vous représentez qui fait que vous êtes déployé dans ces fonctions? Comment est-ce que...
Inévitablement, là ça va faire 7 ans, donc inévitablement je me sens un peu plus à l'aise quand même aussi avec les positionnements à défendre de l'association. Alors, vous disiez, vous connaissiez pas trop, donc on est une association de loi 1901. On a 12 salariés, donc avec une directrice, Cécile Marcel, qui est directrice de l'OIP, et un conseil d'administration de 15 personnes, dans lesquelles tant dans le bureau que le conseil d'administration avec l'équipe, on discute souvent sur les positionnements de l'association, qu'est-ce qu'on peut dire, et des fois je suis pas d'accord, forcément. Et donc là, je trouve que c'est compliqué, alors, des fois, de devoir défendre un positionnement, et je suis invitée en tant que présidente de l'OIP, je défendrai le positionnement de l'OIP.
Oui.
Et voilà, et donc même si, et donc dans ces cas-là, je préfère dire aussi, là je me sens moins légitime sur cette question, parce que soit je partage pas la même conception, soit je suis moins légitime parce que c'est un dossier que je connais moins. Dans ce cas-là, on trouve toujours quelqu'un du conseil d'administration ou du secrétariat national, donc les salariés, pour aller défendre dans la presse le positionnement de l'OIP. Je trouve ça, pour le coup, pour être plus crédible et plus légitime, de garder toujours ce pourquoi je sais que je vais pouvoir vraiment représenter l'OIP.
Oui. La présidence, ça a été une désignation, ça a été une candidature, comment ça s'est passé?
Je devrais pas le dire, c'est une candidature, mais j'étais toute seule. Donc j'ai été élue, mais il n'y avait pas d'autres candidats.
Mais ça pose une question intéressante. Du coup, vous vous êtes présentée parce qu'il fallait un candidat et que vous vous êtes dit, bon, allez, ok, pourquoi pas moi? Ou vous aviez une envie plus volontaire dans cette candidature?
Alors, j'étais déjà membre du conseil d'administration et on m'a dit, tiens, tu veux pas te présenter? J'ai dit, ok. Okay. Voilà, j'ai au début un
donc
peu
vous
hésité.
Avez c'était une candidature désignée en fait.
Voilà. Ouais. J'étais un peu hésitante au début parce que je me demandais comment j'allais pouvoir tout gérer avec le boulot et je pensais pas avoir le temps. Et puis au final, je me suis dit après tout, je suis dans cette association depuis un certain temps, j'aime cette association. Vraiment, j'aime les gens qui y travaillent, je trouve qu'ils font un boulot formidable. On vient de sortir le guide du prisonnier là, donc une nouvelle édition, je sais que c'est un outil fabuleux pour les avocats, pour les magistrats, pour toutes les personnes qui ont envie de savoir comment ça se passe à l'intérieur. Voilà, je suis une fierté, c'était une fierté immense quand ils m'ont demandé et j'ai hésité, j'ai dit non. Et puis après, quand on m'en a reparlé, j'ai dit allez banco.
Et pour en revenir à votre exercice comme avocate, vous dites qu'aujourd'hui vous avez une collaboratrice à mi-temps, trois quarts temps.
Ouais, trois quarts temps.
À trois quarts temps.
Trois cinquièmes, pardon.
Au bout de trois cinquièmes. Vous avez pris un collaborateur ou une collaboratrice au bout de combien de temps d'installation?
Alors la première, c'était quand j'étais avec mon ancienne copine de fac, puisque je suis plus installée avec elle, mais ça devait être en 2008 ou 2009.
Oui.
Pareil, sur un mi-temps. J'ai toujours pris du mi-temps parce que j'ai pas les moyens de faire plus.
Ouais. Et comment, enfin, ça vous plaît d'avoir, de travailler en commun?
Oui, j'en ai eu trois. Une qui est restée longtemps, mais qui est partie après vivre sa vie en province. Une autre qui est restée encore plus longtemps, qui est partie en décembre 2019, et donc Laure, la dernière, qui est arrivée au mois de janvier, avec qui, enfin janvier 2020, la pauvre, hein, au moment du Covid, au moment du confinement, tout ça, ça a été un peu compliqué de commencer dans la profession comme ça, mais elle s'en sort très bien.
Ouais.
Et c'est assez chouette, ouais.
Ouais. Comment est-ce que vous, de quoi est-ce que vous avez envie pour la suite de votre exercice?
Je me pose souvent la question, j'ai pas encore trouvé de solution là, enfin de réponse. C'est-à-dire que je me demande si j'arriverai à faire ça tout encore 20 ans. C'est une vraie question parce que je bouge beaucoup, je suis très souvent en déplacement. Après, c'est tellement une matière tellement prenante, tellement satisfaisante quand on y arrive, qu'en fait c'est je trouve que ça procure tellement de choses, alors personnellement, individuellement et dans la relation avec le client, que je me vois pas arrêter, je me vois pas faire autre chose. Mais je me dis, est-ce que je tiendrai le coup physiquement et moralement, parce qu'il y a quand même des moments de vrais moments d'épreuve. Mais voilà, donc j'ai donné des cours à la fac, ça m'a beaucoup plu. Je donne des cours à l'EFB, donc voilà, je fais quand même aussi pas mal de choses à côté qui me permettent, puis l'association, enfin l'OIP, donc ça me permet aussi d'avoir d'autres, de voir d'autres choses. Donc pour l'instant, qu'est-ce que je pourrais, si j'ai quelques envies qu'un ou deux clients auxquels je tiens un peu plus sortent de prison, voilà, ça va être l'ouvrage de mes prochaines années.
Vous avez commencé votre réponse à ma question par j'ai pas encore trouvé, plutôt que de j'ai pas encore trouvé de réponse, j'ai pas encore trouvé de solution.
C'était un problème.
Ben oui, du coup ça m'intéresse.
Oui, en fait, comme si c'était un problème, parce que des fois je m'interroge quand je suis très fatiguée. Quand il y a eu une semaine difficile, me dire est-ce que vraiment je vais tenir ça? Est-ce que je vais tenir ce rythme? J'ai pas d'enfant aussi, donc ça aide hein, à tenir un rythme. Mais je sais pas si je vais avoir envie de ça tout le temps. Je sais qu'à un moment j'aurai envie de ralentir. Donc je le vois comme un problème dans le sens où comme j'ai pas de solution, voilà. Le jour où j'arriverai à identifier ce que j'ai peut-être envie de faire après, ce sera plus un problème.
Oui, c'est presque dans la question de comment est-ce que vous restructurez votre activité pour faire une transition vers des choses qui vous rééquilibrent, des choses comme ça.
Oui, alors après, là vraiment, en ce moment, je vis je pense depuis un certain nombre d'années, ma meilleure vie professionnelle.
Je vis ma meilleure vie professionnelle.
J'adore,
c'est trop bien.
Dans le sens où je suis contente, en fait, de ce que j'ai pu construire, Bon, le stress de l'argent, je le mets à côté parce qu'il est tout le temps là et que je pense qu'on apprend à vivre avec, en fait, malgré tout. Le stress des honoraires qui rentrent pas. Mais donc, j'ai pas trop à demander là en ce moment, en fait. Vous voyez, je ne vois pas ce que je pourrais faire de mieux. Vous m'avez invité à votre podcast, donc voilà, c'est aussi
je n'y suis
pour
rien.
Une forme de consécration.
Non, je n'y suis pour rien. C'est tous les confrères, parce qu'ils sont nombreux, aux 4 ou 5 personnes qui se sont élevées pour dire mais Delphine Bozelle en droit pénitentiaire.
Voilà, donc mais enfin voilà, là en ce moment j'aime ma vie professionnelle.
Quelle est votre dernière joie?
Pas forcément professionnel.
Comme vous voulez.
Alors, je vais quand même prendre une professionnelle. Ma dernière joie, ça a été un coup de fil d'un client qui est actuellement en train de préparer sa sortie, qui a fait 33 ans et demi de prison, que j'ai accompagné sur sa première permission de sortir parce qu'il n'a vraiment plus personne. J'ai pas pu faire la deuxième, c'est ma collaboratrice qui est allée la faire et il m'a appelé dans la journée en me disant merci d'être là. Ça m'a mis les larmes aux yeux, mais c'était vraiment un vrai sentiment là de me dire voilà à quoi tout ça sert. Et c'était une vraie joie, c'était des larmes joyeuses hein, parce que je pleure beaucoup. Là c'était... Et il m'a dit, elles sont géniales, parce qu'elle était avec ma collaboratrice et une stagiaire. Elles sont géniales, et vous êtes géniales. Et c'était un vrai bonheur, parce que ça fait 10 ans que je le connais, ça fait 10 ans qu'on traverse un certain nombre d'échecs, et que là, enfin, ça a marché.
Et j'allais vous demander, alors c'est un détour, mais vous avez évoqué ce client qui a... disséminer votre nom partout et vous a apporté beaucoup d'autres clients et a marqué votre début d'installation et qui est décédé quand il est... Ça vous fait quoi ce genre de... Enfin, j'imagine que ça doit être terrible, quoi, mais...
Ça a été un choc. Je suis allée à l'enterrement parce que je me voyais pas ne pas y aller. Je le fais pas chaque fois. Après, j'en ai pas non plus beaucoup. Et heureusement qu'il meurt en sortant de prison. Mais ça a été, oui, un choc. Il est mort dans des conditions en plus brutales et violentes. Mais oui, ça a été... Déjà, j'ai été un peu sidérée quand je l'ai appris. C'est un confrère qui le connaissait aussi qui m'appelle et qui me dit, tu sais, pour... non, je savais pas. Enfin, voilà, ça venait d'arriver. Et je me dis que j'ai gardé son dossier pour ne pas le tuer une deuxième fois. C'est débile, hein. Mon mari me dit, non, mais là, c'est des archives en trop. Mais non, j'y arrive pas. J'ai gardé ses courriers parce qu'il m'écrivait beaucoup. Et voilà, j'en parle quand je peux parce que je n'en serais pas là sans lui aujourd'hui. Et que je garde une affection particulière à cet homme d'avoir su me faire confiance à un moment où, au final... il aurait pu préférer prendre d'autres avocats et la confiance dont il m'a honorée me suit encore.
Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ?
Pardon ?
Vous faites partie des personnes qui prennent cette question au premier degré, j'adore.
Je porte je suis là en fait, je suis là. C'est-à-dire que quand je l'enfile, j'essaye d'être moins moi. Dans le sens où je suis pas sûre de porter quelque chose en dessous, mais en tous les cas. Enfin, au deuxième degré, évidemment. J'essaye d'être moins moi, en fait. J'essaye d'être moins celle qui peut pleurer tout le temps. Et même si la robe ne me protège pas des pleurs parfois, même en audience, j'essaye de moins sourire parce que je souris beaucoup, mais j'essaie quand même de moins sourire parce que je pense que on a un métier aussi malgré tout très sérieux et très et qui doit nous obliger, qui exige de nous un certain sérieux. En revanche, je porte des jeans. Alors que certains de mes confrères ou consoeurs disent, faut pas porter de jeans quand on... Mais voilà, je porte des jeans au premier degré.
Donc, moins vous, ou plutôt peut-être moins une certaine partie de vous.
Oui, mais, oui, bien sûr. Sûrement une certaine partie de moi. J'ai beaucoup de sérieux quand même en moi et je ne me force pas. Mais cette robe nous oblige à beaucoup de choses. Dans la représentation, dans l'image qu'elle renvoie, dans le et j'insiste sur ce terme de crédibilité en fait. Même si je veux le défendre parfois, je dois le défendre parfois face aux clients, comme je vous le disais tout à l'heure. Je pense qu'on est pris au sérieux quand on l'est un peu en fait. Alors, attention, ça m'empêche pas de plaisanter avec un magistrat qui va me faire une blague. Même si j'apprécie pas forcément qu'on fasse des blagues alors que le client est dans le box. Ouais.
Ça me fait penser à une amie qui est dans le collectif des colleuses. Et puis, le 8 mars 2020, quand il y avait eu la grande marche pour la journée des droits de la femme, je l'avais rejointe dans le cortège des colleuses. Et puis moi, assez innocemment, je souriais, ça me fait plaisir de te voir et tout. Et elle m'a dit, nous, on s'est mis comme règle dans le collectif que on sourit pas, on rigole pas, on est dans ce cortège pour nous positionner contre des choses qui sont sérieuses et violentes. Et en fait. Donc voilà, et donc j'avais dit ok, donc j'avais arrêté de sourire, et puis on s'était revus après, et puis là on avait souri et rigolé, et ça me fait un petit peu penser à cette anecdote, c'est-à-dire une espèce de conscience de la gravité de ce qu'on est en train de faire à un moment T, et que donc il y aura d'autres moments pour... Merci beaucoup Delphine Bozet.
Merci à vous.